Thomas Cluzel, le journal, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le nombre de chômeurs de catégorie A a diminué l'an dernier pour s'établir à 3,5 millions de personnes. C'est ce qui ressort des derniers chiffres de Pôle emploi publiés ce matin, qui viennent donc confirmer l'embellie sur le front du chômage observé tout au long de l'année.
Dans votre journal également, Thomas Cluzel, le nombre de faits racistes et xénophobes a très fortement augmenté l'an dernier.
Oui, une hausse de plus de 130%, c'est ce qui ressort du bilan du ministère de l'Intérieur rendu public hier. Les craintes liées au coronavirus pèsent lourdement sur les marchés d'actions ce matin, avec des reculs particulièrement marqués pour les secteurs fortement exposés à la Chine, comme le luxe et les transports. Par ailleurs, la visite ce matin du Premier ministre à Wuhan, où est apparue l'épidémie, illustre l'importance du risque sanitaire en Chine continentale, où le nombre de victimes s'établit désormais à 80 morts. Matteo Salvini a raté son pari hier. Le chef de l'extrême droite italienne a échoué à remporter la région d'Émilie-Romagne. En revanche, la coalition au pouvoir dans la péninsule n'en reste pas moins fragilisée après une défaite monumentale du mouvement 5 étoiles, premier parti au Parlement. Et puis l'invité de la rédaction dans une vingtaine de minutes, aujourd'hui Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes. Enfin, 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Libération des camps, 75 ans après, comment ne pas oublier alors que les derniers survivants sont aussi en train de partir? Comment témoigner? Comment raconter? Nous en parlerons avec nos deux invités. Ils sont à la fois réalisateurs et auteurs, Ruth Zilberman et David Teboul, à l'occasion de la parution de L'Aube à Birkenau de Simone Veil et des enfants du 209 rue Saint-Maur, l'autobiographie d'un immeuble. Ils sont avec nous l'un et l'autre dans une vingtaine de minutes.
Merci et à tout à l'heure. Et de 4 en baisse continue sur les 3 premiers trimestres de l'année 2019. Le taux de chômage a donc baissé pour un quatrième trimestre d'affilée. Une confirmation davantage donc qu'une surprise, et puis surtout des données très attendues car présentées comme ayant valeur de test quant à la politique économique en cours. Marie Viennot, bonjour.
Bonjour.
Le nombre de chômeurs de catégorie A sans activité a donc baissé de manière assez significative au dernier trimestre 2019, deux fois plus même que lors de l'année précédente à la même période.
Oui, alors que le chômage était reparti à la hausse entre le deuxième et troisième trimestre, ce quatrième trimestre de l'année est conforme à la tendance et c'est donc une baisse du chômage qui est constatée par la DARES. 63 000 demandeurs d'emploi en moins sur le dernier trimestre pour la catégorie A, c'est-à-dire ceux et celles qui cherchent un emploi et n'ont pas du tout travaillé pendant la période. La baisse est générale pour toutes les catégories, tous les âges, tous les sexes et dans toutes les régions, y compris dans celles d'outre-mer. Il n'y a qu'en Corse que le chômage augmente légèrement. Reste cependant toujours un point noir. Le chômage de longue durée, lui, ne diminue pas et augmente. C'est une tendance ancienne. Plus longtemps on reste au chômage, plus on en sort difficilement. Au-delà de 2 ans de chômage, plus de 2 ans et 3 ans ou plus, il y a 39 000 chômeurs de plus et conséquence, l'ancienneté dans le chômage mesurée en jours augmente. Elle passe de 620 jours au dernier trimestre 2018 à 641 jours pour le dernier trimestre 2019. Au total, donc, sur un an, le nombre de chômeurs et chômeuses de la catégorie A a bien baissé de 120 700 personnes. Mais au-delà de ce chiffre, très satisfaisant pour le gouvernement, reste à déterminer les raisons pour lesquelles le chômage baisse. Ces raisons sont aussi documentées dans les chiffres publiés ce matin. Dans un cas sur cinq, c'est parce qu'il y a eu effectivement une reprise d'activité. Dans 43% des cas, c'est pour un défaut d'actualisation qui a conduit à une cessation d'inscription. 10% des cas, c'est une entrée en stage. 10% un arrêt de la recherche lié à la maternité, la maladie ou la retraite. Et les radiations dont on parle souvent, elles représentent un peu moins de 10% des raisons pour lesquelles on sort du chômage.
Merci Marie Viennot. À l'avant-veille d'une 8e journée interprofessionnelle de grève et de manifestation contre la réforme des retraites, et alors que doit s'ouvrir cette semaine la conférence de financement censée permettre de régler la question de l'équilibre du système, Bruno Le Maire a fait part de son étonnement ce matin à voir tous les partis de gauche et tous les syndicats brandir leur étendard contre ce que le ministre de l'économie juge comme une transformation de justice. Sans compter qu'outre le déluge de critiques issues des oppositions, le gouvernement doit aussi faire face depuis ce week-end aux attaques venues d'un autre franc-tireur pour le moins inattendu, le Conseil d'État. Vendredi dernier, la haute juridiction administrative a déploré tout à la fois les projections financières lacunaires du gouvernement, une étude d'impact insuffisante et des saisines trop tardives. Alors que depuis la crise des gilets jaunes, les pratiques des forces de sécurité sont régulièrement mises en cause, l'annonce hier par le gouvernement du retrait de la grenade de désencerclement explosif Gli F4 fait certes figure de geste pour répondre aux critiques sur le maintien de l'ordre, sauf que son abandon et son remplacement jusqu'à épuisement des stocks étaient déjà programmés depuis un an et demi, d'où la réaction, disons incrédule, de certains syndicats de policiers qui déplorent un simple effet d'annonce avant des municipales à risque pour la majorité présidentielle. Et de fait, à moins de 2 mois maintenant du scrutin, l'heure est grave pour La République En Marche. Dans un climat social alourdi par la contestation contre la réforme des retraites, le parti présidentiel se prépare à des élections difficiles, anticipant d'ailleurs un probable échec. Le président Emmanuel Macron avait lui-même affirmé début janvier ne pas vouloir se mêler de ce scrutin local par essence, qui ne l'a pas empêché pourtant de recevoir hier Cédric Villani, le député et candidat dissident de La République En Marche à Paris, lequel repousse toujours la main tendue par Benjamin Griveaux, investi lui par le parti présidentiel. Or, il semble, Stéphane Robert, que l'intervention d'Emmanuel Macron n'y changera rien.
Cédric Villani a été reçu durant une heure hier à l'Élysée à l'initiative d'Emmanuel Macron, qui lui a demandé de se rapprocher de Benjamin Griveaux afin de faire converger leurs projets. Réponse de Villani à l'issue de cet entretien. Il n'en est pas question.
J'acte une divergence majeure. Entre l'appartenance à un appareil politique et la fidélité, l'engagement pour la ville qui m'a fait, je choisis de rester fidèle aux Parisiennes et aux Parisiens en maintenant ma candidature librement.
Cette déclaration entraîne de facto son exclusion, a déclaré ce matin sur Radio Classique le délégué général de La République En Marche, Stanislas Guérini.
Il a dit les choses, me semble-t-il, assez clairement. Il a indiqué sa rupture avec le président de la République et puis qu'il quittait La République En Marche. Et donc moi je demanderais mercredi soir à mon bureau exécutif d'acter le fait que Cédric Villani n'est plus adhérent de La République En Marche.
Ça fait plusieurs mois déjà que les partisans de Benjamin Griveaux essaient de trouver un moyen de pousser Cédric Villani à renoncer ou à défaut de le marginaliser. Il demandait notamment à Emmanuel Macron d'intervenir, ce que le président de la République avait jusqu'ici refusé de faire. S'il a changé d'avis, c'est que l'enjeu à Paris dépasse le simple scrutin local. Le chef de l'État y avait personnellement obtenu un score de plus de 30% au premier tour de la présidentielle en 2017. Or, les intentions de vote en faveur d'En Marche aujourd'hui sont partagées entre Griveaux et Villani, aucun des deux n'ayant véritablement pris l'avantage. Alors cette immixtion du président est-elle de nature à changer la donne ? Pas sûr. D'abord parce qu'Emmanuel Macron fait la démonstration que son camp est divisé et qu'il ne réussit pas à y mettre bon ordre. Ensuite, parce qu'en nationalisant le scrutin parisien, il prend un risque, celui d'en faire une élection pour ou contre Macron.
Les faits racistes et xénophobes ont plus que doublé l'an dernier. C'est ce qui ressort d'un bilan du ministère de l'Intérieur rendu public hier soir. La place Beauvau recense 1142 faits contre 496 l'année précédente. Le ministère qui note également un nombre de faits anti-chrétiens élevé mais stable, une hausse des actes anti-musulmans et la permanence de la haine antisémite. Diane Berger, bonjour.
Bonjour.
Alors, même que nous célébrons aujourd'hui donc le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, les faits donc à caractère antisémite sont toujours en hausse, Diane, plus 27%.
En effet, le ministère de l'Intérieur en recensait 311 en 2017, 541 en 2018. En 2019, le bilan monte encore à 687. Dans le détail, la place Beauvau distingue deux types de faits. D'abord, les actions, c'est-à-dire les agressions physiques, les profanations de cimetières, les vols. Elles sont en baisse de 15%. Le ministre précise même que les gestes les plus graves, les atteintes aux personnes, sont en recul de 44%. Mais une autre catégorie de faits à caractère antisémite monte. Ce sont les menaces. L'ensemble des propos et gestes inquiétants, des inscriptions, tracts ou courriers à caractère antisémite, leur nombre a augmenté de moitié en 2019. Ces chiffres ne concernent que les actes signalés à la police, mais ils rappellent ceux d'une étude de l'IFOP publiée la semaine dernière pour la Fondation pour l'innovation politique et l'American Jewish Committee. Sur les 500 Français de culture juive interrogés, un tiers déclare se sentir régulièrement menacé justement. Pratiquement 1 sur 4 dit avoir été victime de violence physique au cours de sa vie et surtout les deux tiers racontent avoir subi des agressions verbales, des menaces, des injures à cause de leur appartenance religieuse.
Merci Diane Berger. Le bilan de l'épidémie de pneumonie virale s'est encore alourdi en Chine continentale. On parle désormais de 2740 cas confirmés de coronavirus, dont 80 décès, ce qui signifie que le temps d'un week-end seulement, le nombre de personnes infectées a été multiplié par 4. Quant au nombre de cas suspects, il a lui doublé en l'espace de 24 heures à près de 6000. Et tandis que l'inquiétude grandit donc en Chine, les autorités ont décidé d'élargir encore le cordon sanitaire. 56 millions de personnes personnes se trouvent à présent coupées du monde ou quand l'empire du milieu, tout à sa démesure, se transforme en gigantesque citadelle. Ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le premier ministre chinois de se rendre ce matin directement sur la ligne de front de l'épidémie dans la ville de Wuhan pour rencontrer les patients et les personnels médicaux. Quant au patron de l'Organisation mondiale de la santé, il est lui attendu dans la journée à Pékin. Les précisions de notre correspondante Dominique André.
Masque sur le visage et en blouse bleue, Li Keqiang veut démontrer la détermination du gouvernement chinois à gérer la crise. Le Premier ministre a félicité le personnel médical de l'hôpital pour son travail. « Tout le pays vous regarde », a-t-il dit avant de repartir, en promettant d'envoyer 2 millions de paires de lunettes de protection contre le virus. C'est la première fois que Pékin envoie une personnalité politique de ce niveau au cœur de l'épidémie. Le nombre de victimes se concentre essentiellement pour le moment à Wuhan. 95% des 80 décès du pays et plus de la moitié des personnes infectées sont recensées dans cette province du Hebei. Selon les médias chinois, 461 malades et 2700 personnes infectées sont dans un état critique. Une réunion spéciale avec le directeur de l'OMS se tient à Pékin aujourd'hui avec des officiels chinois. Les discussions doivent porter sur les moyens de contenir le coronavirus. L'épidémie s'étend maintenant à une dizaine de pays. La Mongolie, qui a une longue frontière avec la Chine, a décidé de fermer tous les points de passage. C'est le premier pays qui ferme sa frontière terrestre avec Pékin. Les liaisons aériennes et ferroviaires sont toujours ouvertes.
J'ajoute que la France a annoncé ce matin qu'elle allait organiser le rapatriement de ses ressortissants actuellement en quarantaine. Dès le milieu de cette semaine, il devrait concerner quelques centaines de personnes. Aux États-Unis, même si le suspense quant à l'issue du procès en destitution de Donald Trump semble quasi inexistant, les révélations du New York Times hier n'en restent pas moins explosives. Le journal avance que dans un manuscrit non publié, l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, affirme que le président américain souhaitait geler une aide militaire à l'Ukraine jusqu'à ce que Kiev enquête sur son rival potentiel à la présidentielle, Joe Biden. De quoi contredire évidemment l'argument de la défense. Comme on pouvait s'y attendre, les démocrates ont rapidement réagi à cet article du quotidien new-yorkais pour réclamer que John Bolton soit convoqué pour témoigner au procès en cours au Sénat. Au moins une personne a été blessée hier après que 3 roquettes ont été tirées sur l'ambassade américaine à Bagdad. C'est la deuxième fois en une semaine que la mission diplomatique est ainsi visée. Et puis toujours en Irak, les forces de sécurité ont ouvert le feu hier sur des manifestants anti-gouvernementaux, faisant un mort dans la capitale, mais aussi une centaine de blessés à travers tout le pays. Mobilisés depuis le 1er octobre dernier, les contestataires continuent de réclamer un renouvellement de la classe politique qu'ils jugent corrompue et incompétente. Précisons enfin que cette nouvelle tentative donc des autorités de faire reculer les manifestants et de reprendre la main intervient après que l'influent leader chiite, Muqtada Sadr, a annoncé, c'était samedi dernier, qu'il allait cesser de s'impliquer dans le soulèvement contre les autorités. En privilégiant les urnes plutôt que la rue, à la différence de ses voisins récemment secoués par de violentes manifestations, le Pérou fait lui aujourd'hui figure d'exception dans la région. Et c'est ainsi qu'hier se tenaient les premières élections législatives anticipées de l'histoire du pays. Des élections censées permettre de sortir de la crise politique après la dissolution du Parlement, c'était en septembre dernier, sur fond de scandales de corruption. Or, il ressort des premiers résultats que les Péruviens ont massivement sanctionné la principale force politique qui depuis des décennies mêlent tout à la fois populisme autoritaire, conservatisme sociétal et libéralisme économique. De sorte que dans ce nouveau parlement, atomisé, désormais dominé par les centristes, le président, dépourvu de parti, n'aura d'autre choix que de se prêter au jeu des alliances pour faire passer ses réformes. Les explications de Nadine Epstein.
Le président péruvien Martin Vizcarra n'a pas de groupe parlementaire et effectivement, il va lui falloir monter des majorités selon les sujets, comme pour par exemple la réforme politique ou la nomination des membres du tribunal constitutionnel. Pour autant, le chef de l'État doit être plutôt satisfait de la défaite de Force Populaire, le parti de Keito Fujimori, qui lui était hostile. La droite populiste perd sa majorité absolue et sa capacité de veto. Le nombre des députés fujimoristes va passer de 73 sur 130 à entre 12 et 18 élus dans le prochain congrès. Les fujimoristes ont été relégués à la 6e place politique. Leur leader, la fille de l'ex-président Alberto Fujimori, éclaboussée par des scandales de corruption, risque d'ailleurs d'être renvoyé en prison. Réponse demain mardi. Les électeurs péruviens ont donc rejeté le parti qui mêle populisme autoritaire, conservatisme sociétal et libéralisme économique. En tête des forces politiques éclatées péruviennes arrive Action Populaire, parti de droite avec autour de 12% des voix, suivi de deux petites formations de centre-droit, Alliance pour le Congrès et le Parti Violet, entre 8 et 9%. Des partis traditionnels sortent du Congrès, comme l'APRA de l'ex-président Alan Garcia ou le Parti Populaire Chrétien. Au final, le Parlement est dominé par des centristes, ce qui devrait faciliter un rapprochement entre l'exécutif et l'Assemblée.
La difficile transition démocratique en Bolivie, après avoir annoncé vendredi dernier, contrairement à ce qu'elle avait promis sa candidature à la prochaine élection présidentielle, la chef de l'État par intérim, Jeanine Agnès, a demandé hier à tous ses ministres de démissionner en vue du scrutin. Selon un sondage publié hier, elle ne recueillerait que 12% des intentions de vote, soit deux fois moins que son principal adversaire, le candidat du parti de l'ex-président Morales, en tête des sondages. Le Premier ministre italien Giuseppe Conte peut soupirer de soulagement ce matin. La victoire tant redoutée hier de l'extrême droite en Émilie-Romagne, bastion du nord de la péninsule aux mains de la gauche depuis la Seconde Guerre mondiale, n'a pas eu lieu. Selon les premiers résultats, le gouverneur sortant du Parti démocrate aurait remporté entre 49 et 51% des suffrages contre 43 à 45% pour le candidat soutenu par la Ligue et ses alliés. Dès lors, faut-il y voir un coup d'arrêt à l'avancée de Matteo Salvini ? Seule certitude, pour se consoler, ce dernier s'est aussitôt réjoui de la victoire de la candidate du centre-droit lors des élections organisées en Calabre, laquelle devient ce matin la 10e région à passer à droite depuis le début de la législature. Et puis, autre signe de ce que l'alliance gouvernementale n'en reste pas moins fragile, si le Parti démocrate de centre-gauche a certes évité le désastre hier, son partenaire de coalition, le mouvement 5 étoiles, est lui crédité de seulement 5% des suffrages en Émilie-Romagne et un peu plus de 6% en Calabre, un véritable désaveu donc pour la formation contestataire qui s'oppose à la classe politique traditionnelle. C'est une correspondance à Rome signée Bruce de Galzin.
C'est là où il est né en 2007, à Bologne, que le mouvement 5 étoiles signe son plus mauvais score. En Calabre, c'est aussi une déroute. Là où en 2018, pour les législatives, le mouvement obtenait son meilleur score, 44% des voix. Même si le chef politique des 5 étoiles a démissionné 4 jours seulement avant le scrutin, ce fut analysé comme un aveu de faiblesse qui lui fera porter une forte responsabilité. Car Luigi Di Maio n'a pas réussi à mettre fin au règlement de compte qui ce matin repartent de plus belle. Plusieurs sénateurs et députés ont déjà quitté le mouvement. L'un d'entre eux, Gianluigi Paragone, affirme désormais que les 5 étoiles sont mortes, étouffées dans une boîte de thon. Référence bien sûr aux sardines qui, elles, semblent avoir été écoutées, elles qui se sont rapprochées du Parti démocrate. La guerre au sein des 5 étoiles est relancée entre ceux qui veulent rester au pouvoir avec le Parti démocrate et ceux qui veulent revenir à l'essence du mouvement, selon eux, la contestation, ce qui s'oppose à la coalition actuelle. Quelle trajectoire prendra le mouvement ? Des états généraux sont prévus au mois de mars. Mais avant cela, il faudra continuer à gouverner le pays avec un nouveau rapport de force au sein du gouvernement. Le Parti démocrate réclamera sans doute plus de pouvoir, mais les 5 étoiles semblent aujourd'hui peu contrôlables.
Invité de la rédaction, aujourd'hui Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes en direct et en duplex de Seine-et-Marne. Bonjour madame.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Alors avant de parler avec vous du Brexit, une première question toutefois. Je le disais en ouverture de ce journal, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a encore reculé au quatrième trimestre 2019. Sur un an, la baisse s'établit un peu plus de 3%. En revanche, si l'on rentre un peu plus dans le détail, on s'aperçoit que cette tendance est beaucoup plus timide pour les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans et plus, qui évidemment n'est pas anodin dans le contexte actuel d'un probable report de l'âge de départ à la retraite. Quoi qu'il en soit, ce matin, votre collègue Bruno Le Maire assure que la France peut atteindre le plein emploi. Comment y arriver ?
Déjà, ce que je vois, c'est que vous savez, derrière ces chiffres, il faut pas oublier qu'il y a des chefs d'entreprise, il y a des hommes et des femmes qui ont ensemble décidé de travailler ensemble. Ça veut dire qu'il y a des chefs d'entreprise qui ont retrouvé confiance, qui ont retrouvé des projets. Et je pense que c'est le plus important, parce que sinon, on commande des choses qui sont totalement désincarnées. Bien sûr qu'on n'a pas de triomphalisme, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, 80% des PME ont encore du mal à recruter. Et donc on voit que le combat vraiment qu'il faut qu'on mène, et ça concerne également les personnes de plus de 50 ans, c'est la formation, c'est les compétences, c'est la possibilité d'avoir une deuxième carrière dans sa vie. Et ça, c'est la clé, parce que dans notre pays, on voit que ce qui manque, c'est pas des entreprises qui cherchent à embaucher, c'est pas des entreprises qui ont des projets, c'est bien des compétences en face de ces emplois. Et donc c'est comme ça que effectivement, Bruno Le Maire le dit, on peut arriver au plein emploi, mais on voit que le défi aujourd'hui, c'est vraiment la formation.
Donc travail important sur les compétences. Amélie de Montchalin, encore une question sur l'actualité en France, et on rejoint donc ce projet de loi sur les retraites avec cet avis très critique rendu par le Conseil d'État en fin de semaine dernière. Projection financière lacunaire, dit-il, recours massif aux ordonnances qui font perdre la visibilité d'ensemble. Est-ce que vous n'avez pas finalement bâclé ce texte qui engage pourtant une transformation profonde de notre système de retraite ?
Il y a une forme de paradoxe, vous savez, parce que il y a quelques semaines, on nous disait voilà un projet de loi trop ficelé, qui laisse pas assez d'espace au dialogue social, et il va falloir que, au fond, on voit que le gouvernement tente de passer en force. Le Premier ministre annonce une entendue, une conférence sur le financement, que sur des sujets aussi importants que justement la reconversion au cours d'une carrière, la pénibilité, on cherche à travailler dans le détail avec les organisations patronales et syndicales. Et alors là, du coup, il faudrait que on fasse marche arrière. Moi, je pense qu'il y a un chemin qui est tracé, c'est cette réforme, on veut la faire, parce qu'on veut que tous les Français cotisent à la même caisse de retraite dans le futur, pour qu'ils soient solidaires les uns avec les autres. On veut faire cette réforme parce qu'on voit qu'il y a des sujets d'injustice aujourd'hui majeurs. Je vous rappelle, il y a 20% d'écart salarial entre les hommes et les femmes quand ils travaillent, il y a 42% d'écart quand ils sont à la retraite. Ça, c'est pas tolérable. Ça veut dire que notre système, il ne fonctionne pas pour garantir des droits et de l'égalité. Et puis, on veut faire cette réforme parce que quand on a mon âge, quand on est un trentenaire aujourd'hui en France, on a bien le sentiment que la carrière professionnelle qu'on va avoir, c'est une carrière différenciée. On n'aura pas toute la vie le même métier, on ne sera pas toute la vie dans la même entreprise. Et donc, il faut que notre système des retraites s'adapte.
Donc, vous assumez ça, d'avoir un texte à trous pour donner la place au dialogue social.
Ça, on est sûr. Ensuite, le financement, le chemin pour y arriver, ce qu'on doit encore faire sur la pénibilité, la reconversion, la retraite progressive, c'est des sujets où on assume qu'on va le faire par le dialogue social et que effectivement, du coup, eh bien le projet de loi, il n'est pas bouclé, ficelé, verrouillé avant le débat. C'est les avantages et les inconvénients de la méthode qu'on a choisie. Moi, je pense que c'est une méthode qui montre que on veut faire cette réforme pour tous les Français et avec eux.
Alors, Amélie de Montchalin, votre dossier du moment, c'est bien sûr le Brexit qui devient une réalité vendredi, même s'il s'ouvre pendant un an une période de transition. Il vous faut maintenant, au niveau de l'Union européenne, négocier un accord commercial avec le Royaume-Uni. Mais le Premier ministre britannique Boris Johnson semble faire du chantage. Selon le Times, il aurait évoqué la menace de taxes douanières pour faire pression sur les Européens dans le cadre de ces discussions qui s'ouvrent. On parle notamment de 30% sur certains fromages français. Comment discuter avec un tel partenaire ?
D'ailleurs, moi je vais être très claire. Sur tous ces sujets, on n'est pas dans le bon état d'esprit. On doit recréer avec les Britanniques un cadre commercial, un cadre économique qui soit loyal et qui soit équilibré. Vous savez, là je suis au cœur de la Seine-et-Marne avec des agriculteurs. Pour eux, le Brexit, c'est un sujet d'inquiétude. Et c'est pour ça qu'on va être très clair et que Michel Barnier est très clair en tant que négociateur pour l'Union européenne. Nous ne pouvons pas accepter que les Britanniques mettent à nos portes et mettent dans nos assiettes et mettent dans ce qui arrivera de chez eux en Europe dans les années et les mois qui viennent, mettent des produits qui ne respectent pas nos normes. Pourquoi ? On s'impose une grande révolution de transition écologique, un paquet vert, un Green Deal en Europe. Évidemment qu'il va falloir que ce qui nous arrive du Royaume-Uni respecte les engagements qu'on prend ici. On dit par exemple, on veut réduire par deux la consommation de pesticides et produits phytosanitaires. Est-ce que les Britanniques vont faire de même ? Vous voyez bien que pendant 40 ans, on a vécu avec les mêmes règles. Alors, on a exporté vers le Royaume-Uni, on a importé du Royaume-Uni, mais c'était équilibré, c'était loyal. Donc moi, je ne rentre
donc
pas
attention,
du chantage.
Donc attention, dites-vous, au dumping social et fiscal. Oui.
Évidemment, et on ne signera pas un accord si c'est un mauvais accord. On signera un accord parce que si il est équilibré, s'il est loyal. Ça veut donc dire que je sais très bien que le Royaume-Uni nous dit on a 11 mois et pas un jour de plus, pas une heure de plus pour se mettre d'accord. Mais vous savez, moi j'ai pas de problème à ce que ça dure 2 ans, si c'est le temps qu'il faut pour qu'on ait des garanties pour nos pêcheurs, pour nos agriculteurs, pour nos patrons d'entreprises qui, font avec les normes européennes, et c'est comme ça qu'ils ont vécu. Et d'ailleurs, ils sont assez intéressés à garder les mêmes, parce que pour faire du commerce, c'est toujours plus simple, vous savez, de faire les choses fluidement et de manière réciproque. Donc le Brexit, pour être clair, ce qui se passe à la fin de la semaine, c'est une sortie politique. C'est qu'il n'y a plus de députés britanniques au Parlement européen, c'est qu'il n'y a plus de commissaires britanniques à la Commission européenne, c'est qu'il n'y a plus de ministres dans les réunions de ministres. Mais pour nos entreprises, ça veut dire que les règles, pendant au moins un an, s'appliquent de part et d'autre du tunnel sous la Manche et de la Manche au Royaume-Uni et en Europe. Mais ça veut surtout dire que pour nous, on est très clair sur un point. Le calendrier, il existe, mais on ne sacrifiera ni une entreprise, ni un citoyen, parce qu'on nous dirait qu'il faut se dépêcher.
Et vous ne céderez pas au chantage de Boris Johnson ?
Non, je pense qu'on est dans un temps qui est le choix des Britanniques. Ils ont fait le choix de quitter politiquement l'Union européenne. Eh bien, nous allons créer avec eux une relation future qui sera différente. Mais on veut le faire, vous voyez, comme des bons voisins, avec du bon voisinage. Et la vie de l'Europe doit aussi pouvoir continuer. Vous voyez, on veut pas non plus être pris en otage de la discussion. Il y a des choses très importantes qui se négocient aujourd'hui, demain, le 20 février, avec un sommet sur le budget européen. C'est des enjeux essentiels. C'est notre souveraineté alimentaire sur la PAC, par exemple, qui va être déterminée. C'est tout ce qu'on veut faire dans la recherche. Donc, ce budget européen, il faut aussi qu'on ait, vous voyez, le temps et la liberté d'esprit de se dire que oui, il y a le Brexit, puis il y a l'Europe qui continue à côté.
Merci Amélie de Montchalin, secrétaire d'État chargée des affaires européennes, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Anne-Laure Jumet ainsi qu'à Gilles Gallinaro pour les moyens techniques. On termine avec un mot de météo cet après-midi. La perturbation continuera sa lente progression jusqu'aux plaines du sud-ouest, les Pyrénées et le nord des Alpes. À l'arrière, un ciel de traîne s'installera, alternant les éclaircies avec des averses de plus en plus fréquentes. Quant aux températures, elles afficheront généralement entre 6 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Pommet. À 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.